Avant de lire le texte sur lequel nous allons méditer ensemble ce matin, je vais vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es le maître souverain. Les temps sont dans ta main. Tu es le maître de l'univers, tu es l'alpha et l'oméga. Et tous les temps de ce monde, tous les temps de cet univers et tous les temps de ma vie, de nos vies sont dans ta main. Seigneur, merci de pouvoir te consacrer ce temps pour qu'il prenne tout son sens par ce que tu veux nous y révéler. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous lire le texte que nous connaissons bien dans l'évangile de Matthieu, qui est aussi repris dans l'évangile de Luc, et qui est l'évangile de ce jour. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras point à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne, et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte, et voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Lorsque j'ai vu cette semaine que j'ai été inscrit sur le site pour prêcher aujourd'hui, je me suis dit, les frères qui organisent les prédications sont un peu malicieux. Qu'à chaque fois qu'il me demande de prêcher, c'est toujours un moment en particulier, c'est soit Noël, soit Pâques, soit l'entrée du carême. Je suis un abonné au temps liturgique. Alors je pense pas qu'il y ait malice à ça, parce que je connais assez mes frères, j'en suis sûr. Mais je me dis quand même, Seigneur, c'est un peu étonnant qu'à chaque fois ça retombe sur moi, de devoir prêcher sur des temps particuliers de l'année liturgique, qui sont pas du tout la tradition de notre Église, ni de nos communautés. Mais pour autant, quel sens cela pourrait-il avoir pour nous? Je ne crois pas au hasard. Alors, vous savez dans quel temps nous sommes? Comme dirait l'apôtre Paul, vous savez dans quel temps nous sommes. Alors, globalement, nous sommes dans les temps de la fin. Ça c'est clair, depuis Christ est ressuscité, c'est les temps de la fin, on est tranquille. Mais, dans le temps particulier d'aujourd'hui, pour des millions de chrétiens dans le monde, c'est le temps du carême. Et je ne vais pas vous faire un cours sur la liturgie, je ne vais pas vous faire un cours sur le carême, ne vous inquiétez pas. Mais simplement, cela me rappelle une chose que j'aimerais pouvoir d'abord reprendre avec vous, c'est que, finalement, ce temps du carême, c'est simplement pour beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens, d'autres confessions que la nôtre, de se rappeler que Jésus est un modèle à suivre, et que justement, le texte qui introduit ce carême, c'est les 40 jours de jeûne et de prière de Jésus au désert. Alors, la première question que je me suis posée, en travaillant là-dessus, c'est d'abord la question du temps. Que faisons-nous du temps que Dieu nous donne? J'ai vu un film il y a quelque temps, justement, sur, je ne sais plus si je l'ai vu au cinéma ou si je l'avais vu en streaming sur Internet, je ne sais plus. Peu importe. Je me confesse. Ça m'arrive de regarder des films en streaming. C'était un film où, de science-fiction un peu particulier, je suis souvent attiré par les films de science-fiction parce que dans beaucoup de films de science-fiction, il y a beaucoup de choses qui nous sont dites sur la manière dont l'homme se voit aujourd'hui, en dehors de l'Église. C'est un film où on voit, vous savez, à un moment, il y a le temps de notre vie qui est inscrit sur nos bras. Time out, c'est ça? Et à partir d'un certain âge, le temps se découle et à la fin, il s'arrête et on meurt instantanément. Et ce film montrait quelque chose de tout à fait vrai. Le temps nous est compté. On n'a qu'une vie. Pas deux. Et le jour où l'on est, c'est terrible, c'est angoissant, il y a un chronomètre qui se met en marche. Il y a un athée qui a dit, la plus grande des maladies, c'est la vie, parce qu'elle mène toujours à la mort. Et c'est extrêmement angoissant de comprendre ça. Quand on n'a aucune espérance, quand le temps qui nous est donné n'a aucun sens, quand on ne sait pas pourquoi on est là, et pourquoi ce temps nous est donné, et qu'on voit ce temps s'écouler seconde après seconde comme les grains de sable, vous savez, dans un sablier inexorable, mais c'est absurde de vivre, et c'est angoissant. Mais que vivre les quelques milliards de personnes qui nous entourent, qui ne connaissent pas le sens de ce temps qui nous est donné? C'est hyper angoissant. Et face à l'angoisse, il n'y a qu'une solution. Il faut donner du sens à ce temps, et comme on n'en trouve pas, on remplit ce vide de ce sens par n'importe quoi pour se distraire de la fin inéluctable qui nous attend. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais quelle est la condition humaine actuellement de la plupart de ceux que nous côtoyons, si ce n'est cela? Le temps nous est donné. Lorsque j'ai appris, j'aurais voulu vous faire un cours d'astrophysique, mais ça va être un peu trop compliqué. Moi-même, j'ai peut-être du mal à comprendre aussi. Mais ce que j'aimerais pouvoir vous dire, c'est que nous sommes au XXe siècle, nous devons un certain cerveau relativement important, pour la plupart sont juifs, c'est peut-être pas un hasard, notamment un cerveau de celui d'Einstein, qui est assez quand même connu, nous devons une chose fondamentale, ce que nous avons compris et démontré, c'est que le temps est une création, et qu'il fut un moment, et on ne peut même pas dire un moment, le temps a une origine, il y avait un temps où il n'y avait pas de temps. Or, et le temps est relatif. Il ne peut pas y avoir de temps s'il n'y a pas d'espace. Et le temps est relatif. Autrement dit, le temps dans lequel nous sommes a eu un point de départ. Et avant ce temps, il n'y avait pas de temps. Il y a forcément eu quelqu'un qui est à l'origine du point d'origine qui donne au temps d'exister. Autrement dit, le temps est une création de Dieu. Et si Dieu crée le temps, et s'il crée l'espace dans lequel la matière se forme à partir de l'énergie pour que nous existions, c'est qu'il nous donne ce temps comme un fruit de la création pour y accomplir quelque chose et pour y vivre quelque chose. Le temps est une création de Dieu qui nous est donnée. Et en dehors de Dieu, ce temps n'a pas de sens. Et pourtant, il existe inexorable. Chacun d'entre nous mourra. Cet univers dans lequel nous sommes, à 13,7 milliards d'années, il disparaîtra. C'est une création que Dieu a permise, qui se déroule. Si vous voulez savoir un petit peu plus, vous pouvez lire différents livres qui ont été écrits là-dessus. Vous travaillez la formule égale MC2, tout y est écrit, mais on ne va pas faire un cours d'astrophysique. Mais sachez, je dis ça avec humour, mais sachez aussi une chose. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut le prouver. Autrement dit, l'univers n'est pas éternel, la matière n'est pas éternelle, elle a une origine. La science rejoint étrangement la foi. Comment commence la Bible? Au commencement. Qui est au commencement? Qui est aux commandes? Dieu. Tout le reste est du commentaire. Tout le reste est du commentaire. Au commencement, Dieu. Alors, si le temps est une création de Dieu, et si nous sommes des êtres limités dans le temps, quel est le sens du temps qui nous est donné? Pascal disait finalement dans ses pensées que l'homme, en fin de compte, son drame, c'est qu'il cherche à combler son temps en se distrayant. Parce que s'il n'y a pas de but dans notre vie, il faut bien qu'on la remplisse de quelque chose, et que ce temps qui nous est donné, c'est tellement angoissant de savoir qu'un jour ça va s'arrêter, qu'il faut se distraire pour oublier qu'on va mourir. Et je vois aujourd'hui que la plupart des hommes et des femmes qui vivent dans notre monde, c'est cela qui les préoccupe d'abord. Ne pas penser au fait que nous avons une durée de vie limitée, parce qu'on ne sait pas quoi faire de son temps. Donc on le remplit avec tout et n'importe quoi. Frères et sœurs, quelle était notre condition avant de connaître Dieu? Et quelles sont les tentations à laquelle nous sommes encore soumises? Si nous perdons de vue qu'il y a une espérance pour notre avenir, et que cette espérance ne nous sera pas ôtée. Le temps de notre vie nous est donné par Dieu pour quelque chose. Alors, pourquoi je vous rappelle ça? Parce que finalement, vous savez que beaucoup de chrétiens vivent un temps liturgique dans l'année où il y a des rythmes. Ça peut être pris très religieusement, parce que vous savez, les temps liturgiques, ça existait aussi chez les Égyptiens, ça existait aussi chez les Babyloniens, ça existait aussi dans les grandes religions païennes, d'avoir une année rythmée par des temps. Mais si on retire cela de l'aspect religieux, pourquoi Dieu, lorsqu'il suscite et crée le peuple d'Israël, lui donne un rythme des temps? Vous savez par quoi est rythmée la vie d'Israël dans le Premier Testament? Elle est rythmée par les grandes fêtes religieuses. C'est Dieu qui demande à son peuple de célébrer quoi? Quelles sont les principales fêtes que vous connaissez? Le Yom Kippour, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, etc., etc. Traduisons-les en français courant. Ça vous ira mieux? Pentecôte, Pâques. Principalement. Or, ces fêtes-là, le peuple les vit communautairement. Et ça donne et ça rythme tout le temps de sa vie en lui donnant un seul but. Que chacun des moments de notre année soit consacré à Dieu. Autrement dit, donner ce rythme d'une année avec ses fêtes, c'est permettre à chacun et membre du peuple de Dieu et à tout le peuple de Dieu de se rappeler qui est Dieu et de chercher toujours à être en relation avec lui pour rythmer le temps de notre vie et lui donner son sens. Les fêtes de l'Éternel jalonnent toute l'histoire, à la fois du peuple juif et de l'Église. Et Dieu sait très bien pourquoi il fait ça. Je ne me mets pas à la place de Dieu, mais j'essaie de comprendre. Comment pourrait-on comprendre ce qu'a fait Jésus si Pâques n'avait pas existé? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre qui est Jésus? C'est qu'il est mort le jour de Pâques. Et c'est parce que Pâques était vécu par les Juifs comme étant une fête qui avait une signification que nous pouvons comprendre ce qu'a fait Jésus. C'est parce que Pâques existait. Imaginez que Jésus soit arrivé et soit mort à une fête, à une date où il n'y avait aucune fête. Comment aurait-on trouvé les mots pour expliquer qui était Jésus et pour dire ce qu'il a fait? Christ, notre Pâques, dira l'apôtre Paul. Puis quand vous lisez l'épître aux Hébreux, la référence n'est pas Pâques, c'est le Yom Kippour. C'est pareil, celui qui écrit l'épître aux Hébreux parle aux Juifs en leur disant « Mais le Messie, c'est le grand Kippour !» Ils comprennent, parce que Kippour, ça fait des siècles qu'ils le vivent. Autrement dit, Dieu met dans notre temps humain et communautaire des repères qui permettent de donner du sens pour comprendre aussi qui il est et pouvoir l'atteindre. Faites ceci en mémoire de moi. En fin de compte, une fête religieuse, une fête instituée par Dieu, c'est à la fois pour nous rappeler dans le passé ce que Dieu a fait pour nous, pour nous permettre de donner du sens à notre présent et préparer l'avenir. Quand les Juifs ont vécu Pâques, jusqu'à ce que Jésus vienne, qu'est-ce qu'ils célébraient? Ils célébraient le fait qu'ils étaient esclaves et qu'ils avaient été sortis d'Égypte. Ils se souvenaient d'un événement du passé qui montrait que Dieu était intervenu dans leur vie. Et ils disaient à tous les peuples autour, « Voyez notre Dieu, c'est ce qu'il a fait pour nous. » Donc il existe. Et ensuite, dans leur présent, chaque fois qu'ils célébraient Pâques en famille et collectivement, ils se rappelaient cela pour rendre gloire aujourd'hui à Dieu. Et en même temps, ils préparaient quoi? Ils préparaient un témoignage qui allait donner du sens à la venue de Jésus pour le monde. Autrement dit, frères et sœurs, s'attacher à fêter dans ce temps que Dieu nous donne, ces moments-là qui nous ont été donnés par Dieu, pour célébrer ce qui signifie dans le passé, pour le comprendre au présent et préparer l'avenir, ça fait partie de la manière dont Dieu nous éduque et nous fait vivre le temps. Et cela donne aussi un témoignage concret à ce que nous faisons ensemble et personnellement. Dieu est un musicien qui rythme nos vies, comme une belle symphonie avec des temps forts qui sont les fêtes. J'aime bien Noël Colombier, qui est un chanteur chrétien, qui dit « Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. » Alors, évidemment, vous comprenez bien que je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une liturgie à suivre, que je ne suis pas en train de faire l'apologie d'un rythme de vie à trouver religieusement, mais de voir le sens que Dieu donne au temps de nos vies en fixant ces grands rendez-vous que sont les fêtes qu'il a instituées pour donner sens au plan de salut qu'il voulait accomplir. Vous savez que finalement, la Pentecôte est arrivée n'importe quand. Quand est arrivée la Pentecôte ?
50 jours après Pâques.
Oui, mais quand ? À quelle fête ? Shavuot, où tout le peuple était réuni à Jérusalem. Et là, la prédication a pu les toucher. Mais Shavuot, c'est la fête des prémices. Les premiers chrétiens, c'est les prémices du peuple des rachetés, qui vont aller pouvoir évangéliser le monde entier. Ces fêtes qui rythment le temps de nos vies, Dieu leur donne du sens, et ça nous permet de comprendre ce qu'il fait, et d'adhérer alors à son plan. Nous avons besoin d'être intellectuellement convaincus aussi, et éduqués. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, chaque fois que nous faisons la Sainte Cène, qu'est-ce que nous faisons ? Faites ceci en mémoire de moi. On se rappelle que Jésus a accompli jusqu'à ce qu'il tienne. On vit le passé au présent dans l'espérance de l'avenir. Nous sommes spirituellement des sémites. On fait ce qu'ont fait les juifs depuis toujours. Quand un juif vit la Pâque, il revit l'événement de la Pâque dans l'attente de la délivrance finale. Alors c'est ça qui donne à mon avis du sens aux fêtes liturgiques. En dehors de cela, ça peut être que du religieux. Et je ne suis pas d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça donne du sens. Et moi, personnellement, j'aime me dire que, Seigneur, j'ai besoin, dans mon année, de me rappeler, à certains moments, que tu as fait ça pour moi, que tu as fait ça pour nous. Et je suis heureux de pouvoir me le rappeler avec des frères et des sœurs, de le célébrer ensemble, de le partager ensemble, et de comprendre aussi ce que ça signifie pour notre avenir. Parce que tu viens bientôt établir ton règne. Alors, quand nous vivons des temps comme celui d'aujourd'hui, en fin de compte, nous signifions deux choses. Dieu est le maître du temps, et il a rythmé le temps de nos vies pour leur donner du sens. Bien, maintenant que je vous ai dit ça, je vais en revenir au texte biblique. En fin de compte, le temps de carême, c'est un temps particulier, vous savez, c'est un temps... Pour ceux qui le vivent liturgiquement, c'est un temps où pendant 40 jours, on va se mettre à part, prier, parfois jeûner, etc. Je ne me sens pas, moi, appelé à vivre ça comme ça. Mais simplement, le texte d'aujourd'hui est intéressant pour plusieurs points. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce texte d'aujourd'hui ? Vous le connaissez tous. Jésus, le contexte, il vient d'être baptisé. Jean ne parle pas dans son évangile de ce récit. C'est pas dans l'évangile de Jean. C'est que dans Luc et que dans Matthieu. Marc, il y a deux lignes, mais sans les détails. C'est Luc et c'est Matthieu qui insistent. Ils insistent sur quoi ? Qu'est-ce qui me paraît important pour nous aujourd'hui ? C'est que c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert. Autrement dit, c'est pas un événement fortuit qui lui arrive comme ça. C'est Dieu qui le permet. Dieu permet quoi ? Dieu permet que Jésus vive une confrontation extrêmement forte avec Satan, avec le tentateur, avec le démon. Est-ce que le disciple est plus grand que le maître ? Est-ce que le chemin que Jésus a vécu est exemplaire pour celui que nous avons à vivre ? Oui. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ne soyons pas étonnés si dans notre vie chrétienne, nous soyons conduits au désert. Ne soyons pas étonnés. Jésus lui-même l'a vécu. Et heureusement qu'il l'a vécu avant nous, parce que nous, on ne tiendrait pas dans le désert s'il n'avait pas vécu ce désert avant nous. Mes frères et sœurs, la conduite au désert, les temps d'épreuve, font partie de la vie chrétienne. Alors, après là, je marche sur des œufs. Je marche sur des œufs parce que je pense que dans l'Église, au sens spirituel du terme, ça a toujours été un débat. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu peut nous soumettre à la tentation. Attention, pas dans le sens de la tentation qui nous fait pécher, mais dans le sens d'une épreuve, ce qui n'est pas la même chose. Vous connaissez le livre de Job ? Comment ça commence ? Satan vient voir Dieu et lui dit, tu vois ton serviteur Job là, il t'aime vraiment pour ce que tu es ou il t'aime pour ce que tu lui donnes ? Et que fait Jésus ? Que fait Dieu ? Ok, éprouve-le et je fixe une limite. C'est quand même troublant ce texte de voir que Dieu donne un certain pouvoir à Satan pour éprouver Job. Mais il lui fixe une limite. Tu ne toucheras pas à sa vie. Ce texte, je ne peux pas le retirer de la Bible, hein. Il est dedans. Jésus est conduit au désert pour y être tenté. Attention, pas pour pécher, pas pour chuter, pas pour être séparé de Dieu, mais pour être mis à l'épreuve. Quelles sont les épreuves à laquelle Jésus va être confronté ? Alors là-dessus, si vous tapez sur Internet les trois épreuves de Jésus, vous allez avoir des centaines de sites avec des centaines d'explications. Je vais vous faire un résumé en quelques minutes. Parce qu'en gros, elle dit toute la même chose, parce que le texte, on va dire, en gros, donne trois tentations. Trois épreuves. Ce qui est impressionnant, vous connaissez ce texte, c'est de voir que Jésus va y répondre comment systématiquement ? En citant les Écritures. Quelle était la Bible que Jésus connaissait par cœur ? Oui, ce que moi j'appelle le premier testament, parce que le second testament, c'est le testament de Jésus-Christ. Jésus, la seule Bible qu'il connaissait, c'est celle-là, parce que l'autre, il était en train de l'écrire, donc par sa propre vie. Elle n'était pas encore écrite. Jésus connaissait par cœur les textes bibliques, comme tout bon juif qu'il était en vivant dans ce peuple. Il connaissait la Bible. Mais plus que connaître la Bible, qu'est-ce qu'il connaissait ? Alors ça... Il quelle heure ? Faut pas que j'aille trop loin, parce que je pourrais vous en parler des heures là-dessus, il faudrait que je m'arrête un peu. Vous avez remarqué que Satan cite aussi la Bible ? Est-ce que vous avez remarqué que Satan cite aussi la Bible ? Satan connaît la Bible. Il sait lire. Tout de suite. C'est une créature de Dieu, il sait lire. Et pourquoi Jésus, lorsqu'il entend Satan dire la parole de Dieu, il ne l'écoute pas ? Parce que quand Satan cite la parole de Dieu, il la cite avec un accent, une intonation et une intention qui n'est pas celle de Dieu. Jésus est assez intime avec son Père pour connaître l'intention qui est dans le cœur du Père. Sommes-nous assez intimes avec Dieu pour, lorsque nous lisons les Écritures, connaître vraiment le cœur du Père et correctement interpréter alors cette Écriture? L'histoire de l'Église nous a montré à combien de fois des gens dits chrétiens ont utilisé l'Écriture avec l'intention qui n'était pas celle du cœur de Dieu. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Vous connaissez ? Combien de fois dans l'histoire des chrétiens ont utilisé la parole de Dieu pour tuer d'autres personnes ? Au nom de l'Évangile, au nom de la parole, même en la citant. Qu'est-ce qui était marqué, en fin de compte, vous vous souvenez, la devise des nazis, hein, Dieu avec nous. Emmanuel. Invraisemblable. Il massacrait le peuple juif. Invraisemblable. On peut citer la parole de Dieu sans connaître le cœur du Père. Et dans ce cas-là, elle n'est pas dite par Dieu. Elle n'est pas dite avec l'intention de Dieu. Elle ne porte pas le fruit que Dieu veut qu'elle porte. Pourquoi Jésus connaissait le cœur du Père? Alors c'est facile, réponse toute simple. Bah, il était Dieu. D'accord. Mais il était aussi vrai homme. En tant que vrai homme, comment a-t-il appris à connaître le cœur du Père? C'est par sa fidélité à lire la parole et à rechercher la présence de Dieu tous les jours de sa vie. C'est son intimité avec Dieu qui lui a appris à reconnaître Dieu. Alors, Jésus, lorsqu'il arrive au désert, il a quel âge à peu près? On n'est pas un an près. Il a la trentaine. Ça, on pense que c'est à peu près l'âge qu'il devait avoir. Est-ce que Jésus a déjà une longue habitude d'une vie spirituelle? Sans aucun doute. Mais est-ce qu'on nous en parle dans la Bible? Non, mais on en voit les fruits. Mais on en voit les fruits. La démonstration n'est pas dans la pratique, mais dans les conséquences dans la vie de Jésus. On en voit les fruits. Et par contre, durant les 3 ans où Jésus exerce son ministère, que nous disent fréquemment les évangiles, souvent le matin, il allait au rendez-vous prier. Et c'est là qu'on le retrouvait. Je crois que Jésus, tous les matins, il avait ce temps à part avec Dieu qui rythmait sa journée. En fin de compte, frères et sœurs, il y a à la fois les temps collectifs qui sont les célébrations communes que nous avons, mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Non. Ce qui compte d'abord, c'est les temps personnels que nous avons avec Dieu pour rythmer nos vies, donner du sens au temps qui nous est donné chaque jour. Je suis un adepte assez maintenant régulier de passer quelques jours de retraite dans des monastères. Notamment, j'aime beaucoup le monastère du Mont-Déca que d'autres connaissent. Et ce que j'apprécie énormément chez les moines, c'est de rythmer leur journée par ces rendez-vous avec Dieu. C'est à ce point important pour eux qu'ils y consacrent leur vie. Et le fait d'y consacrer leur vie, ils dégagent un espace dans lequel moi je peux rentrer de temps en temps en me laissant porter par eux. Et je me dis que ça a du sens au travers de ça, pour moi, de penser que j'ai besoin chaque jour, dès le début de ma journée, de consacrer cette journée et ce temps à Dieu. De dire, Seigneur, j'ai 24 heures aujourd'hui, je te consacre ces 24 heures. Pour que tu leur donnes tout son sens parce que tu me les as données, et si je ne les utilise pas, elles seront perdues. Parce que le temps s'écoule et ne se rattrape pas. Rachetez le temps, dit l'apôtre Paul, car les temps sont mauvais. Mais je parle pour moi là, vous voyez, c'est pas à vous que je fais la leçon, c'est d'abord à moi. Je me rends bien compte que quand je me lève le matin et que je suis d'abord préoccupé par ce qui va m'arriver dans la journée, sans passer le temps tout simple, même de quelques minutes, de prière ou de lecture d'un texte du jour, d'une liste du jour, quelle qu'elle soit, ma journée prend un sens totalement différent quand je le fais ou quand je ne le fais pas. Ce n'est pas un hasard. C'est comme si je consacrais ma journée à Dieu en disant « Seigneur, que mes heures soient rythmées par ta présence. » Dès le lever. Dès le lever du jour. C'est ce que Jésus faisait. Et tout cela a rendu Jésus capable alors, et c'est là où je veux en venir, de résister au temps de l'épreuve. Et de tenir bon et de vaincre au temps de l'épreuve. Vous connaissez les 3 tentations, maintenant j'y reviens. La première tentation, c'est la tentation du matériel. C'est la tentation de l'avoir. Alors ça, dans notre société européenne occidentale, c'est la tentation la plus évidente qui nous pollue. Et nous ne sommes pas indemnes. C'est la tentation d'être distrait par le matériel pour perdre notre temps. Et pour remplir notre temps. Quel est le but de ma vie? Quel est mon horizon quotidien? Est-ce uniquement le matériel? La couverture de mes besoins naturels, de mes désirs, et la recherche de la maîtrise d'objets qui remplissent mon temps sans aucune référence spirituelle. Waouh, le nouvel iPad. Waouh, le nouveau smartphone. Ouah, la nouvelle BMW.
Bien dans tes meubles, bien dans ta vie.
Heureux es-tu si tu consommes chaque jour avec ta carte bleue. Heureux es-tu si tu achètes le nouvel iPad 16 gigaoctets, 4G Wi-Fi. Tu découvriras le bonheur. Heureux es-tu si tu manges tous les jours au McDo. Heureux es-tu si tu fais de ta vie uniquement le fait d'être un bon consommateur. Heureux es-tu si le seul but de ta vie est de posséder des structures matérielles techniques qui te donnent le bonheur. Jacques Ellul a écrit un livre qui s'appelle « Le bluff technologique ». Il y a un bluff dans cette technologie qui nous distrait de l'essentiel de nos vies. Vanité, vanité, tout est vanité, et poursuite du flanc et du vent. Et je suis le premier addict à ces choses. J'ai un de mes élèves qui m'a dit « Monsieur, est-ce que vous êtes un geek ?» Je dis « Je suis un petit peu. » Et comme beaucoup d'entre vous, je suis addict. J'ai un joli smartphone, je m'en suis racheté un nouveau. J'ai un portable qui m'est devenu indispensable, mon ordinateur pour mon travail. Alors, je suis aussi, il faut être objectif, je vis dans un temps où ces objets sont devenus utiles et nécessaires. Mais est-ce que c'est le seul but de ma vie que de les posséder et d'en avoir toujours de plus beaux? Est-ce que c'est ça qui remplit mon temps et qui justifie pourquoi je vis? C'est ce que le monde voudrait me faire croire, pour me distraire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, pas de matière seulement, pas uniquement de ce qui remplit et couvre ses besoins naturels, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de tout ce qui guide et qui donne vraiment du sens à sa vie. Je peux utiliser mon ordinateur, je peux utiliser mon smartphone, aucun souci. Dieu ne nous juge pas là-dessus. Soyons clairs, frères et sœurs. Mais est-ce que c'est ça le seul but et le seul besoin réel de mon existence? Qu'est-ce qui est premier dans ma vie? L'homme ne vivra pas de pain, j'aime bien le seulement. Il peut aussi en vivre, mais pas seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce qui donne vraiment sens à ma vie, c'est la relation vivante et quotidienne avec Dieu. Elle haït le vivant. Deuxième tentation, il est 25, je vais aller vite. Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. C'est quelle tentation? C'est la tentation de la toute-puissance. La tentation d'utiliser Dieu pour soi, pour sa propre glorification. La tentation de se faire plus grand que Dieu parce que je le possède et je le manipule. Mes frères et sœurs, ça ne vous guette pas, ça ne nous guette pas. Parfois, moi je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'avais entendu un enseignement du pasteur qui m'a amené au Seigneur, Paul Bejdhoff. C'était au cours d'un culte. Et j'ai entendu cette phrase qui est toujours restée. Malheur à celui qui suit le chemin de l'affirmation de soi. Utiliser Dieu pour s'affirmer, pour être quelqu'un, devant les autres. L'humilité précède la gloire. Jésus a refusé cela parce que son temps n'était pas venu et ce n'était pas le moment de manifester sa messianité en étant récupéré par Dieu, parce que c'est par la toute-puissance extraordinaire d'un miracle incroyable qu'il allait manifester sa messianité, mais c'est par une mort hideuse sur la croix. L'inverse exact de la toute-puissance telle que l'homme la conçoit. J'ai déjà dit que j'ai un ami qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce Dieu puissamment faible ». Quand nous disons « Dieu tout-puissant », quelle toute-puissance je m'imagine? Où Dieu a manifesté la plus grande de sa puissance? C'est sur la croix et dans le tombeau. Dans la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Ce n'est pas dans les miracles les plus extraordinaires. c'est dans la croix. Si je suis chrétien, quel est le but réel de ma relation avec Dieu, de ma connaissance de Dieu? Me servir de lui ou le servir? Dans un monde technicien, sans Dieu comme le nôtre, la foi en la toute-puissance de l'homme, sans référence à Dieu, est la seule source de salut de l'humanité aujourd'hui. Nous serons sauvés parce que nous saurons faire. Je viens de lire un livre qui s'appelle La Formule de Dieu. J'en ai parlé avec Richard. C'est un roman. Je ne sais pas si Pierre tu l'as lu. Ce qui me frappe, je ne vais pas vous le résumer non plus, ce qui me frappe à la fin, c'est que cet homme, qui n'est pas chrétien, il voit le salut de l'humanité dans le fait qu'elle a été créée pour dominer l'univers entier, dans les milliards d'années qui restent, pour préparer le prochain univers. Et par sa technique, l'homme sera le sauveur de lui-même et de tout l'univers. C'est la plus grande des idolâtries. Se passer de Dieu, sans comprendre qu'il nous a créés, et se référer uniquement à nos capacités pour produire notre salut. C'est ça la tentation de la toute-puissance. Elle guette le monde païen, mais elle guette aussi le monde chrétien. Troisième tentation, la tentation du pouvoir. Tout cela, je te le donne si tu m'adores. Alors là, on pourra en parler des heures. Est-ce que Satan possède vraiment toutes les villes et tous les royaumes qu'il montre à Jésus? J'ai pas envie d'en parler maintenant et d'en discuter. Parce que Satan est aussi un grand menteur. Par contre, tout pouvoir qui n'est pas soumis à Dieu, à qui est-il soumis? Toute puissance politique, toute puissance humaine qui n'est pas soumise à Dieu, à qui est-elle vraiment soumise? J'aime bien quand Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César. » Mon royaume n'est pas de ce monde. Pour autant, nous sommes solidaires du temps dans lequel nous vivons. Nous sommes d'abord solidaires du royaume dont nous sommes les ambassadeurs. La frères et sœurs, comment résister cette tentation du pouvoir, finalement, elle nous guette quand nous cherchons plus à paraître qu'à être. Elle nous guette quand nous recherchons le chemin de l'affirmation de nous-mêmes plutôt que le chemin de la soumission humble à la volonté de Dieu. Elle nous guette si nous ne reconnaissons pas que Dieu est souverain de nos vies, ce qui nous mène à la louange et à l'adoration. Ce que dit Jésus, il répond au diable, « Tu adoreras Dieu seul. » Adorer Dieu seul centre de ma vie. Jésus qui règne sur le trône de mon cœur. Quand j'étais plus jeune, avec Christophe Savage, on faisait de l'évangélisation sur les campus. On distribuait un petit tract dans lequel on voyait, vous savez, un cœur avec un trône. On voyait, avant que Jésus ne vienne, c'est moi qui est sur le trône, et après que Jésus soit venu dans ma vie, c'est Jésus qui est sur le trône, et le moi est à ses pieds. Qui règne en moi? Est-ce que c'est moi qui règne en moi, ou est-ce que c'est Jésus qui règne en moi? J'aimerais terminer par un chant. Je ne vais pas le chanter, j'aurais voulu. C'est un chant de moi qui m'émeut beaucoup. Je l'aime beaucoup en anglais. J'aime beaucoup sa traduction française. C'est de Tim Hughes. Certains vont le reconnaître. Et j'aimerais que cette prière, pour moi, c'est une prière que j'aimerais pouvoir dire tous les matins. Comme une prière où je dirais « Seigneur, aujourd'hui, sois le maître de mon temps. » Que ces 24 heures de plus qui me sont données soient 24 heures consacrées à toi, ou puissent s'accomplir dans ma vie ce que tu as prévu pour qu'elles soient bonnes pour moi, pour les autres, à la louange de ta gloire. Dieu de tout mon être, dans tout ce que je suis, Dieu dans mon éveil, Dieu dans mon sommeil, Dieu dans mon repos, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes paroles, Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, soit tout en moi. Dieu dans mes espoirs, présent dans mes rêves, Dieu dans mes regards, Dieu dans mes attentes, Dieu dans mon bonheur, présent dans mes pleurs, Dieu dans mes souffrances, dans ma guérison. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Dieu soit tout en moi. Oui, soit tout en moi. Christ en moi, Christ en moi. Christ en moi, l'espoir de gloire. Dieu soit tout en moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Oui, sois tout en moi. Amen.